Le journal présenté par Oana Favennec.
Bonjour à tous. Le PIB de la France dévisse, mais pas autant qu'attendu, de 13,8% au deuxième trimestre, selon l'INSEE. Pendant ce temps-là, les GAFA, la bande des quatre d'Internet, continuent d'afficher des chiffres records. Dans la lutte contre le coronavirus, le gouvernement passe la main au préfet sur le port du masque en extérieur. Celui du Nord a annoncé ce matin de nouvelles mesures. À Taïwan, la mort de Monsieur Démocratie, l'ancien président Lee Teng-hui, inspiration des opposants à Pékin encore aujourd'hui dans la région. Le PIB de la France s'enfonce, moins 13,8% sur la période avril-juin. Et l'INSEE a publié une nouvelle estimation ce matin. C'est un chiffre sévère, mais c'est un chiffre moins sévère que prévu, a réagi le ministre de l'Économie. Que nous dit ce nouveau chiffre de la situation de la France, Anne Lorchouin?
Eh bien que, comme en Allemagne, en Espagne et en Italie, et comme dans la plupart des pays du monde, les indicateurs classiques qui mesurent l'état de l'économie sont catastrophiques et que cela était attendu. Cette contraction du PIB de 13,8% donc au deuxième trimestre et même sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais l'effondrement est quand même un peu moins pire que prévu puisque mi-juin, le même INSEE prévoyait plutôt 17% de contraction. Cela dit, toutes les composantes de notre économie ont été touchées. Le commerce extérieur qui enregistre la baisse la plus forte, moins 17,3% pour les importations, moins 25% pour les exportations suite à la période la plus sévère du confinement. La consommation des ménages, principale composante du PIB, enregistre une baisse de 11%. La production de biens et services a plongé, elle, de 14,2%. Et c'est le secteur de la construction qui en pâtit le plus. Mais qui dit fort effondrement peut vouloir dire aussi fort rebond. Et c'est effectivement ce qui est attendu au troisième trimestre avec des chiffres de consommation des ménages plus élevés au mois de juin qu'avant le confinement. Pour le troisième trimestre, donc, l'INSEE prévoit un rebond de 19%. La banque Natixis de 16%. La Banque de France de 14%. Des chiffres différents, mais qui tous anticipent donc des jours meilleurs. À plus long terme, en revanche, difficile d'anticiper. Les Français relanceront-ils la consommation grâce à leur épargne, comme leur a demandé ce matin Bruno Le Maire, ou garderont-ils cette épargne en prévision de jours difficiles? Les analystes se montrent là extrêmement prudents.
Et tandis que les économies européennes sont au plus mal, certains se portent au mieux. Et les GAFA, par exemple, les quatre géants d'Internet, Google, Apple, Facebook et Amazon, présentent eux une santé florissante, Marie Viennot.
Alors que l'économie américaine connaît sa pire récession, les GAFA affichent des résultats qui sont exactement inverses. Amazon a fait l'un des meilleurs trimestres de son histoire, mieux qu'à Noël, et alors que les coûts d'expédition ont été renchéris de 4 milliards de dollars avec l'épidémie, le profit d'Amazon a doublé par rapport à l'an dernier pour dépasser les 5 milliards de dollars. Les résultats de Facebook et Google auraient pu aussi être affectés par les réductions des dépenses publicitaires des annonceurs, mais là encore, même un environnement dégradé n'a pas affecté leur rentabilité. 5 milliards de bénéfices pour Facebook et des revenus en hausse de 11%. Alphabet, à qui appartient Google, a en revanche perdu des recettes, mais un petit 2%, alors que le marché publicitaire, lui, s'est effondré de 20%. Au final, son bénéfice taquine les 7 milliards d'euros. Beaucoup en rêveraient, mais c'est 3 milliards de moins que l'an dernier. Enfin, Apple n'a pas non plus été affecté par le confinement. Ses ventes sont plus florissantes que jamais, le chiffre d'affaires en hausse, et son bénéfice dépasse les 11 milliards. C'est le plus élevé des quatre géants de la tech. Des géants qui ressortent donc renforcés de l'épisode Covid. La Chambre des représentants enquête sur de possibles abus de position dominante des GAFA et leurs PDG ont été auditionnés cette semaine. Faut-il scinder ces géants? La question se pose encore un peu plus après la publication de ces résultats insolents.
Marie Viennot. Et pour tenter de contrer le pouvoir grandissant de ces GAFA, l'Australie veut les forcer à partager, à rémunérer les médias quand les entreprises comme Google et Facebook tirent des recettes publicitaires des informations produites. Le gouvernement australien vient de présenter un code de conduite et cette fois, si les GAFA rechignent encore à s'asseoir à la table des négociations, elles s'exposeront à des amendes colossales. Les explications de Grégory Pley-Sassiné.
rétablir l'équilibre entre les GAFA, omniprésents dans la vie des Australiens, et les médias, très fragilisés financièrement ces dernières années. C'est l'objectif du code de conduite dévoilé aujourd'hui par la Commission de la concurrence australienne. Le code entend forcer Google et Facebook à reverser une partie de leurs recettes publicitaires aux éditeurs de presse. On ne sait pas encore sous quelle forme ni à quelle hauteur, car ces détails sont à négocier entre chaque média ou groupe de médias et les GAFA. Et s'il n'y a pas d'accord, l'affaire sera finalement tranchée par une cour d'arbitrage. En revanche, le prix à payer pour Google et Facebook s'ils enfreignent ce nouveau code, il est lui déjà connu, et comme l'a rappelé le trésorier du gouvernement Josh Frydenberg, il est très élevé.
La peine maximale est de 6 millions d'euros par infraction, ou 3 fois le montant des bénéfices obtenus, ou 10% du chiffre d'affaires.
Google en Australie s'est dit déçu par cette annonce et Facebook avait pour sa part menacé de se passer totalement des contenus produits par les médias australiens. Mais ce genre de discrimination est également puni par ce nouveau code. Facebook, ceci dit, capte plus du quart des recettes de publicité en ligne en Australie, un marché de 6 milliards d'euros par an. Elle a donc les moyens de payer quelques amendes.
Grégory Pless. À Hong Kong, les élections législatives de septembre sont repoussées. Une décision justifiée ce midi par la chef de l'exécutif Carrie Lam par l'épidémie de coronavirus. Cette semaine, plusieurs opposants au régime tenu par Pékin ont vu leur candidature invalidée, ce qui n'a pas suffi à calmer leurs ardeurs. La résistance se poursuivra, réagissait Joshua Wong. Joshua Wong qui salue l'ancien président taïwanais Lee Teng-hui, mort hier à l'âge de 97 ans. Il était le père de la démocratie taïwanaise, dit-il sur Twitter, et la bête noire de Pékin, Adrien Simor.
Lee Teng-hui, sa silhouette imposante et son large sourire étaient connus de tous les Taïwanais. Originaire du nord de Taïwan, Lee Teng-hui était parvenu à gravir les échelons du parti nationaliste chinois jusqu'à devenir président de la République en 1988. Il se fit alors l'artisan de la démocratisation du pays après 40 ans de régime autoritaire. La députée Fan Yun, ancienne militante démocrate, l'avait rencontré au premier jour de son mandat.
Il était vraiment bienveillant, il a essayé de nous convaincre qu'il était en faveur des réformes politiques que nous demandions. Et quand on regarde l'histoire, il a bien tenu ses promesses, et tout cela dans un délai très court.
Lee Teng-hui fut aussi le premier chef d'État né à Taïwan, une identité qui l'a poussé à défendre progressivement l'indépendance de l'archipel face à la Chine. Ce positionnement lui valut d'ailleurs son exclusion du parti nationaliste chinois en 2001. Stéphane Korkuff, spécialiste de la géopolitique du monde sinophone.
Je le considère comme le père de la nation taïwanaise. Celui qui a bâti le sentiment d'identité nationale, qui l'a fait admettre aux gens, qui a permis à ce débat d'émerger, c'est lui.
Un rôle que Pékin n'a jamais digéré. Hier, les médias d'État chinois ont ainsi taxé Lee Teng-hui de parrain du sécessionnisme taïwanais. Il faut dire que Lee Teng-hui a fait des émules à Taïwan et en premier lieu la présidente actuelle Tsai Ing-wen, partisane de la souveraineté de Taïwan. L'héritage de Lee Teng-hui guidera des générations de Taïwanais, a-t-elle déclaré hier, peu après l'annonce de sa disparition.
Adrien Simor à Taïwan. Le Vietnam enregistre son premier décès dû au coronavirus, selon les médias officiels. Aucun cas n'avait été détecté de mi-avril à mi-juillet. Et le virus est réapparu le week-end dernier dans une ville balnéaire avec une centaine de cas recensés depuis. Sachez aussi que le Mexique est devenu le troisième pays le plus endeuillé au monde ce vendredi en dépassant la barre des 46 000 morts de la Covid, devant le Royaume-Uni et toujours derrière les États-Unis et le Brésil. En France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce ce matin que les préfets pourront décider de rendre le port du masque obligatoire en extérieur, alors que certaines voix s'élevaient ces derniers jours, notamment à la mairie de Paris, pour demander une législation au niveau national. Dans le même temps, le préfet du département du Nord a pris des mesures ciblées. Lina Tagui, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'a-t-il été annoncé ?
C'était attendu, le port du masque est désormais obligatoire dans certains lieux publics ouverts de la métropole lilloise. Il faut imposer pour ne pas reconfiner, explique Michel Lalande, le préfet du Nord. Dès lundi matin, il faudra donc se déplacer masqué dans les zones piétonnes, les zones où on roule à 20 km/h, dans les galeries commerciales et leurs parkings. Les marchés publics en plein air sont aussi concernés, ainsi que tous les espaces verts et les bords de cours d'eau. La sanction si le masque n'est pas porté, une contravention de 135 euros. Dans le même temps, les dépistages vont être renforcés, c'est ce qu'a expliqué le directeur de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France. Les visites en chambre, dans les hôpitaux, les EHPAD seront limitées à une seule personne à la fois. Et même si la mesure peut paraître contraignante, le directeur du SAMU a tenu à rappeler qu'il faut porter le masque correctement et que ce n'est pas un accessoire de mode. Ces décisions étaient à prévoir alors que le nombre quotidien de nouveaux cas de Covid-19 est à la hausse. Avec ces annonces, la préfecture du Nord imite celle de la Mayenne qui impose déjà le port du masque dans 4 centres-villes du département depuis le début de la semaine.
Lina Tagui. La décision de la Commission européenne sur la fusion du français Alstom et du canadien Bombardier devrait intervenir dans la journée pour faire accepter ce rachat et éviter une situation de monopole. Alstom a pris les devants et annoncé qu'il se séparerait de certains actifs, notamment du site de production des TER régionaux de Reichshoffen en Alsace, technologie comprise. Même si un repreneur pourrait être trouvé, les 770 salariés du site alsacien craignent d'être sacrifiés à terme, souligne Daniel Dreger, le porte-parole de l'intersyndicale CGT-FO-CFE-CFC de l'usine.
Nous, ce qu'on demande à M. Poupa-Lafarge, c'est qu'il nous retrouve un acquéreur qui est solide et qui est viable pour tous les salariés. On ne veut aucune perte d'emploi dès que le nouvel acquéreur vient. On peut imaginer que ce soit un petit qui prend et que d'ici 2 ans, ils nous disent « Ben non, on prend la technologie, on le met dans un pays low cost, mais il n'y a pas de boulot derrière, il n'y a pas de commande derrière. » Nous, aujourd'hui, on veut aucune perte d'emploi. Je vois pas pourquoi c'est tombé vraiment sur Reichshoffen. Et on nous l'explique pas. On se sent sacrifié sur l'autel de la finance. Et ça fait très mal, parce que les salariés le vivent très mal. Je peux vous dire que sur tous les autres sites, Alstom, les salariés se sont dit ouf quand le site de Reichshoffen a été nommé pour le remède. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une nébuleuse et c'est vraiment, on a été sacrifié vraiment pour que ce deal se fasse.
Daniel Dreger, le porte-parole de l'intersyndicale de l'usine de Reichshoffen en Alsace, joint par Laurent Kramer. En Sibérie, la taïga s'est transformée en fournaise. 20 millions d'hectares partis en fumée depuis le début de l'année. Elle est l'équivalent de la superficie de la Grèce. Fin juin, il a fait jusqu'à 38 degrés à Verkhoyansk, une ville au-delà du cercle arctique. Mais ce qui inquiète et impressionne les climatologues, c'est la persistance de ces conditions chaudes, plus 6 degrés en moyenne depuis janvier. Et le réchauffement climatique aggrave la situation, Maxime Tellier.
Oui, incendies, records de température, fonte du pergélisol, de la banquise. La Sibérie fait les gros titres cet été, on comprend pourquoi. D'autant qu'elle occupe près de la moitié du cercle arctique. Mais ce qui préoccupe les climatologues, c'est surtout le maintien de ces conditions chaudes inédites qui durent depuis l'hiver dernier. Christophe Cassou est climatologue, directeur de recherche au CNRS et il est impressionné. Il observe ce que lui et ses collègues avaient prévu il y a 20 ans.
Si on regarde les projections que l'on faisait il y a une vingtaine d'années, on voyait très bien que dans les années 2020-2030, on était vers une accélération dans les effets du changement climatique sur ces régions-là particulières, sur les régions arctiques. Ces régions arctiques, elles se réchauffent 2 à 3 fois plus vite que le reste de la planète.
Alors comment explique-t-on cela? Il y a des conditions atmosphériques particulières au-dessus de l'Atlantique Nord qui parfois amènent des vents chauds loin dans les terres sur des régions habituellement très froides en hiver.
Et c'est ce qui s'est passé cet hiver. Donc des vents d'ouest qui ont été très forts et ces vents d'ouest, ils ont pénétré jusqu'en Sibérie. Et ces vents d'ouest amènent de l'air doux qui vient de l'océan Atlantique. Et on en a eu tellement que la neige au sol ne s'est pas formée. Donc il n'y avait pas de réserve de froid. Donc les températures peuvent monter plus vite. Il y a des zones qu'on appelle sentinelles, quoi. C'est des zones qui nous informent sur l'état climatique, sur l'état de la planète de manière générale. C'est des zones où tout est amplifié. Donc c'est des révélateurs, en fait.
Et l'amplification des phénomènes météo est donc due au réchauffement climatique causé par l'être humain. Un consensus existe chez les climatologues pour dire que la canicule sibérienne n'aurait pas été possible sans cela. La Terre s'est déjà réchauffée de 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle, depuis 1850. Mais en Arctique, c'est déjà 2 degrés. Conséquence, la banquise fond toujours plus chaque été avec un record attendu cette année. Et une tempête qui arrive en ce moment qui pourrait fragiliser encore plus la glace. En revanche, le Canada et l'Alaska sont plutôt épargnés par ces conditions chaudes. C'est la seule note un peu positive de ce papier. Je suis désolé.
Et on retrouve sur franceculture.fr un entretien très complet avec le climatologue que vous avez interrogé, Christophe Cassou. Il y évoque aussi les solutions pour arriver à limiter le réchauffement. Au Pays Basque, le feu a détruit 165 hectares de végétation. Il est maîtrisé, mais le risque de reprise n'était pas écarté ce matin, selon le maire d'Anglet. L'incendie a pris au sein de la forêt de Chiberta, un secteur boisé au centre-ville entre Adour et Atlantique, bordé notamment par un parcours de golf et des villas de luxe. Une enquête a été ouverte. Le temps de ce vendredi, particulièrement chaud et orageux. 32 départements ont été placés par Météo France en alerte orange canicule. Une diagonale du nord jusqu'à la Drôme, en passant par les Savoies. On attend des orages localement violents cet après-midi et en soirée sur les Hauts-de-France et le bassin parisien. Côté température, elles sont en baisse par rapport à hier sur la façade atlantique. Entre 27 et 32 degrés, un peu moins, du littoral vendéen à la pointe bretonne. Partout ailleurs, la chaleur sera intense, cet après-midi avec 34 à 39 degrés, localement 40 à 41 degrés à l'ombre sur le bassin parisien, la Champagne, la Bourgogne, le Berry, le nord de l'Auvergne et la moyenne vallée du Rhône.